Bonjour tout le monde. Vous avez passé une bonne semaine? Good, good, good. Très content d'être avec vous ce matin pour poursuivre la série qu'on a commencée la semaine dernière sur le livre des Proverbes, série qu'on a intitulée « Lorsque la parole est d'argent, mais que le silence est d'or, voyage au cœur de la sagesse de Dieu ». Tout juste avant d'entrer dans le deuxième exposé de cette série qu'on a commencé la semaine dernière, peut-être juste un petit retour sur ce qu'on a vu la semaine passée et expliquer pourquoi qu'on a choisi ce titre-là. D'une certaine manière, ce qu'on veut faire à travers ce titre-là, c'est plonger dans le livre des Proverbes à travers le fameux dicton populaire qui dit que la parole est d'argent et le silence est d'or. Hein? Ce que ce proverbe-là nous dit, d'une certaine manière, c'est que parfois, le silence est plus éloquent qu'une parole. En d'autres termes, oui, on peut accéder à une certaine forme de sagesse quand on écoute ce que la vie nous envoie parfois comme situation, comme épreuve. L'expérience de la vie, parfois, nous amène à une certaine forme de sagesse. Ça représente la parole qui est d'argent. Hein? Écouter des fois des gens qui sont autour de nous, qui ont peut-être plus de cheveux blancs que nous, bien, c'est profitable pour nous de pouvoir profiter de l'expérience de quelqu'un qui a déjà passé par différentes situations. Mais c'est encore meilleur, encore plus sage d'écouter celui qui incarne même le principe de la sagesse, qui est non seulement capable de nous parler de la sagesse, mais qui est la sagesse elle-même, c'est-à-dire Dieu. Hein, on a vu la semaine passée, d'une certaine manière, que la sagesse, Dieu l'incarne de manière ultime, il la personnifie et que c'est dans notre contact régulier avec lui, que ce soit à travers la parole, oui, la communion avec les frères, mais également dans le jeûne, dans la prière, qu'on peut accéder à une certaine forme de sagesse. Plus on passe du temps avec Dieu, plus il met sa marque sur nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse illustration que je vous avais donnée, hein, quand on part une brassée de lavage, qu'on mélange du noir puis du foncé, bien, le foncé va déteindre un peu sur le pâle. Bien, c'est la même chose avec Dieu. Plus on passe de temps avec lui dans l'eau froide ou chaude de la vie, puis plus il va mettre sa marque sur nous. Donc, ça fait partie du principe même de la sagesse, une sagesse que Dieu a déployée dans notre monde à travers son Fils Jésus-Christ. Et également, qu'il veut déployer sur nous-mêmes à travers son Esprit. Ce matin, j'aimerais simplement vous commencer par une petite anecdote. Un petit exemple pour vous dire que le livre des Proverbes, il est rempli de principes qui, lorsqu'on les met en pratique, révèlent une certaine forme de sagesse. Le problème, ce n'est pas qu'on ne connaît pas les Proverbes. Le problème, c'est quand vient le temps de les mettre en pratique, c'est une autre paire de manches. Je donne un exemple très, très, très tiré de mon quotidien, mais disons de mon passé. Il y a 13 ans de ça, quelques mois après que je me sois marié avec Laura, à un moment donné, notre voiture nous a lâchés. Assez subitement, et on a pris la décision, bon, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour s'acheter une nouvelle voiture? Alors, commence à magasiner un peu, et tout d'un coup, Laura et moi, on tombe sur la voiture que j'ai toujours rêvé d'avoir durant toute mon adolescence, une Volkswagen Jetta rouge. J'ai toujours trouvé que ce nom Volkswagen, la voiture du peuple, j'ai toujours trouvé que ce nom-là avait du panache, avait de la gueule, comprenez-vous? Puis je savais que quand les Allemands font quelque chose, ils ne le font pas à moitié. C'est toujours généralement de la bonne qualité. Les Allemands ont une éthique de travail extrêmement développée. Donc, en plus, la voiture était rouge, ma couleur préférée. Alors, vous devinez un peu la suite. On achète la voiture sur le champ, pas d'inspection, bonhomme. Il est où le contrat que je le signe? Tu veux le chèque? Oui, je te le donne, pas de problème. J'ai la voiture. Mes amis, les problèmes que j'ai eus avec cette voiture-là, c'est inimaginable. Je suis tombé sur un vrai citron. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis tombé sur un citron? Bien, c'est simple, je me suis laissé guider par un désir que je n'arrivais même pas à contrôler. Quand j'ai vu la voiture, c'est comme s'il y avait une pulsion dans moi, un tsunami qui me disait « Hey, bonhomme, tu n'as pas le choix, il faut que tu m'achètes. » Comme si cette voiture-là était faite pour moi. Et j'ai succombé, je n'ai pas été capable d'endiguer ce désir-là, d'accomplir un de mes rêves, c'est-à-dire avoir une Volkswagen rouge. Ce n'est pas un désir que je suis arrivé à contrôler. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un principe qui était sage? Bien, pas vraiment. Pas vraiment. Le célèbre philosophe que vous connaissez probablement, Bouddha, a déjà dit ceci. L'esprit de l'être humain est difficile et instable. Il court là où il veut. Celui qui est maître de soi-même est plus grand que celui qui maîtrise le monde. Comprenez-moi bien ici, là. Je ne veux pas comparer Bouddha à Jésus. Jésus est l'incarnation même de la sagesse. Bouddha a certainement dit des choses qui étaient sages. Parfois, il en a dit des choses qui l'étaient moins. On va voir ça un peu plus loin. Mais ce que je veux faire révéler ici, c'est que la manière dont Bouddha aborde la situation est en ligne directe avec ce que nous indique le livre des Proverbes. C'est-à-dire que Bouddha avait mis le doigt ici sur quelque chose qui touche le principe de la sagesse, c'est-à-dire ce qu'on va voir aujourd'hui, le phénomène de la maîtrise de soi. Lorsque j'arrive à bien maîtriser qui je suis, lorsque j'arrive à bien maîtriser mes désirs, mes pulsions, bien, il y a plus de chances que je prenne des décisions qui sont sages, que je agisse avec sagesse. Et simplement pour vous donner quelques versets tirés du livre des Proverbes en fonction de ce principe-là, on va regarder ça ensemble. Donc, notez bien que les passages suivants sont tirés de la Bible français courant. Donc, on peut passer à la prochaine diapo pour que je puisse vous les lire. Donc, là, il y a plusieurs versets. Donc, au lieu de prendre quelqu'un qui vous lirait ces versets-là, je vais vous les lire. Donc, celui qui ne sait pas se dominer cause sa propre mort. L'excès de sa bêtise lui fait perdre la tête. Proverbe 5, verset 23. L'imbécile laisse paraître immédiatement sa colère. L'homme prudent cache son irritation. Celui qui surveille ses paroles met sa vie à l'abri. Celui qui dit n'importe quoi s'expose à la ruine. Un homme avisé réfléchit avant d'agir, mais les sots font étalage de leurs bêtises. Qui reste calme fait preuve d'une grande intelligence. Qui s'emporte montre sa bêtise. Le héros véritable est celui qui vainc sa colère. Il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. Quelqu'un d'expérimenté évite de trop parler et quelqu'un de raisonnable prend le temps de réfléchir. Comme une ville forcée et sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Il est insensé de se fier aux impulsions de son cœur. Oui, en effet. Seul celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. Donc, on est ici devant une série de versets qui, d'une certaine manière, nous disent la chose suivante. La maîtrise de soi est la marque d'une grande sagesse. Celui qui la possède s'évite bien des ennuis et devient une source de grands biens à la fois pour Dieu, pour lui-même et pour les autres. Quand on maîtrise bien les désirs qui s'animent en nous, lorsqu'on arrive à bien les équilibrer, à bien les gérer, c'est ce qui va produire en nous une certaine forme de sagesse. Bien sûr, il s'agit d'un défi titanesque pour chacun d'entre nous. Que ce soit devant une tondeuse qui refuse de partir, un enfant qui vient d'égratigner un plancher qu'on vient juste de refaire, un patron qui refuse de donner du crédit pour un travail bien fait ou une remarque désobligeante de nos conjoints, à chaque jour de notre vie, notre maîtrise de soi est constamment mise à l'épreuve. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Pour faire face à ces défis journaliers qu'on a, à chaque jour de la semaine, à chaque jour de notre existence, notre maîtrise de soi est bombardée par toutes sortes de choses. Le monde autour de nous nous propose différentes sortes d'alternatives. Il y en a qui vont nous inciter, « Ah, tu devrais faire du yoga pour te calmer les nerfs. Tu devrais plutôt rentrer en toi-même, faire une introspection, mieux connaître tes forces et tes faiblesses. Comme ça va t'aider à prendre des décisions qui sont sages parce que tu vas connaître tes limites. » Il y en a qui vont dire, « Bien, regarde, pour être sage, tu as simplement besoin de vivre en fonction de la simplicité volontaire, de voir la vie de manière positive. » Ou même de rien désirer du tout dans la vie. Quand tu désires rien, ben c'est facile de contrôler tes désirs parce que tu n'en as pas. Telle n'est pas la. Même s'il y a une certaine forme de sagesse là-dedans, il y a une certaine forme de sagesse là-dedans dans le fait de se questionner, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, est-ce que ce désir-là, il est bon dans ma vie, est-ce qu'il est moins bon? Il y a une certaine forme de sagesse là-dedans, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin ce matin et voir comment dans le livre des Proverbes, on nous présente le fait de la maîtrise de soi. Comment est-ce qu'on parvient à la maîtrise de soi? Eh bien, le premier principe que le livre des Proverbes nous indique, c'est que la maîtrise de soi est intimement liée à notre rapport personnel avec Dieu. La maîtrise de soi est intimement liée à notre rapport personnel avec Dieu. Regardez, par exemple, ce que nous dit le Proverbe. Proverbe, chapitre 3, à partir du verset 1. Proverbe, chapitre 3, versets 1 à 8, et on va lire ensuite les versets 11 à 13. « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Garde dans ton cœur mes recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Pratique toujours la bonté et la fidélité. Conserve-le comme une parure autour de ton cou. Grave-le dans ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprendras et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. » Verset 11. « Accepte, mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur et ne dédaigne pas ses reproches, car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande le fils qu'il chérit. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et découvre la raison. » Ce qu'on voit ici, c'est que la maîtrise de soi, tout comme on l'a vu la semaine passée avec la sagesse, premièrement, c'est une grâce. La maîtrise de soi, c'est quelque chose qui se trouve dans mon écoute et mon observation de ce que Dieu nous indique qui est sage. En tant que maître de l'univers, c'est dans un contact personnel avec lui que je peux apprendre la maîtrise de soi. C'est Dieu qui accorde la maîtrise de soi. C'est pas moi qui s'approche de Dieu pour être capable d'absorber sa sagesse. C'est tout d'abord Dieu qui s'est avancé vers moi pour me donner cette sagesse-là. Regardez, par exemple, dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Le passage nous dit ceci. « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Ce que nous dit l'apôtre Paul ici, d'une certaine manière, c'est que c'est l'esprit de Dieu qui me remplit de la maîtrise de soi. Avant toute chose, la maîtrise de soi est un privilège qui m'est accordé de la part de Dieu. Rappelez-vous le moment où Jésus a été tenté dans le désert et qu'il a démontré par sa résistance aux épreuves à quel point il était quelqu'un qui savait maîtriser ses désirs. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que le texte nous dit à propos de la situation où se trouvait Jésus à ce moment-là, dans quelles conditions intérieures il se situait au moment où il a maîtrisé ses attaques personnelles de l'ennemi contre lui-même? Le texte nous dit qu'il était rempli de l'esprit. C'est comme ça que la maîtrise de soi s'acquiert. Elle ne peut être accordée que par celui qui maîtrise les rouages de l'univers. Regardez ce que nous dit l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains à ce sujet au chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 8 nous dit « Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous, vous ne vivez pas selon votre propre nature, vous vivez selon l'Esprit-Saint, puisque l'Esprit-Saint habite en vous. » Verset 13. « Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit-Saint vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Ici, ce qu'on voit clairement, c'est que la maîtrise de soi ne peut pas s'obtenir en excluant Dieu de l'équation de nos vies. l'Esprit Saint est non seulement quelque chose qui me permet de me maîtriser, c'est une grâce que Dieu m'accorde, mais en plus, ça me permet de vivre vraiment. Ça me permet de vivre vraiment parce que c'est ce que Jésus a rendu possible à la croix. À la croix, ce qui est arrivé, c'est que Jésus-Christ a rendu premièrement possible mon pardon. Le pardon de mes fautes personnelles, de me réconcilier avec Dieu, d'établir un lien de paix entre moi et Dieu. Dieu était en colère contre qui j'étais, car j'étais un être rebelle à lui, et Jésus-Christ a porté ce poids-là à ma faute. Grâce soit rendue au Seigneur Jésus, qui non seulement me permet d'être pardonné de mes fautes, mais maintenant il me rend apte à vivre d'une autre manière que je vivais avant. La croix est une grâce qui me donne non seulement le pardon, mais une grâce qui me permet maintenant de vivre dans la sainteté. Une grâce qui me donne le pouvoir de progresser dans ma maîtrise de soi. Personnellement, je dois vous avouer que parfois, il y a des choses qui m'échappent dans ma vie. Il y a des choses que je trouve incontrôlables. Ou est-ce que si je me regarde moi-même, ben, je ne peux que m'avouer vaincu. Je ne suis pas un homme capable de maîtriser tous les domaines de sa vie. Je suis, par exemple, un homme impulsif. Surtout quand vient le temps de régler un problème. Moi, quand je suis devant une situation où est-ce que j'ai une solution à trouver, là, la solution, je ne veux pas qu'elle vienne dans la prochaine minute, je veux qu'elle vienne dans la minute qui vient de passer, comprenez-vous? Ça prend une solution, vite! Je suis un homme pressé. Et souvent, ça ne m'a pas incité à prendre des décisions qui sont sages. Vous vous rappelez, au début de l'année, on s'est donné comme mandat de ressembler à Jésus sur plusieurs points. On avait sorti un petit carton, malheureusement, j'ai oublié ce matin, je ne l'ai pas avec moi. On avait développé un petit carton, on veut ressembler à Jésus en 2015. Et on s'était donné des critères très précis en quoi que je veux ressembler en Jésus cette année, en 2015. On avait pris cet engagement-là ensemble dans l'Église. Moi, personnellement, ça n'a pas pris de temps pour savoir ce que Dieu voulait faire avec moi en 2015. Dis, Miguel, je veux que tu progresses dans ton impulsivité. Je veux que tu gardes ta passion, mais je veux que tu apprennes à devenir plus sage. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai simplement pris l'engagement de prier Dieu et de dire à ce sujet plusieurs fois par semaine, de lui demander de m'apprendre. Non seulement dire, Seigneur, donne-moi cette sagesse-là, donne-moi une meilleure maîtrise de moi-même, mais mets-moi dans des situations où est-ce que ma maîtrise de soi va être mise à l'épreuve pour que je puisse grandir. Je te le demande, éprouve-moi. Je veux non seulement que tu me bénisses en me donnant ce que j'ai pas, mais je veux que tu me mettes dans le feu pour que je puisse grandir là-dedans également. Je m'attends pas que ça se fasse comme un coup de baguette magique. Vous savez ce qui est arrivé? Même si je suis pas fier de moi, souvent à ce sujet, j'ai constaté que Dieu a fait un travail énorme dans ma vie. J'ai constaté à plusieurs occasions, je me suis même surpris, parce que c'est pas moi ça, à être plus prudent dans mes choix, plus calme, moins émotif. Pourquoi? Je me suis simplement tourné vers celui qui pouvait me donner et vaincre ce qui était plus fort que moi, mon impulsivité. Et ça, évidemment, ce n'est pas une partie de plaisir. Oui, la maîtrise de soi est une grâce que Dieu accorde. C'est une grâce qui nous permet de vivre dans la sagesse. Mais à quelque part, lorsqu'on regarde la plénitude de l'Esprit sur Jésus, oui, c'est un don de Dieu, mais également la discipline personnelle et l'effort de Jésus a toujours été ici impliqué dans cette histoire-là. La maîtrise de soi n'est pas venue sur Jésus sans que sa volonté personnelle soit impliquée. Et ça, c'est le deuxième point que j'aimerais développer ce matin, c'est-à-dire que la maîtrise de soi ne se résume pas à une pensée magique où il nous suffit d'attendre que Dieu fasse quelque chose puis de nous de se tourner les pouces. Bon, Seigneur, OK, la sagesse, c'est quelque chose que tu donnes, j'attends. J'attends. Et j'attends encore. On pourrait être ici jusqu'à demain matin. Tournez avec moi dans le livre des Proverbes encore, au chapitre 4. On va voir ce que le livre des Proverbes nous dit là-dessus. Proverbes, chapitre 4, verset 4. Verset 4 à 9, on nous dit ceci. « Mon père m'enseignait ainsi. Retiens bien mes paroles. Observe les règles que je te donne et tu vivras. Acquiers la sagesse et l'intelligence et ne les oublie plus. Ne néglige aucune parole de ma bouche. Ne délaisse pas la sagesse et elle t'aidera. Aime-la et elle veillera sur toi. Pour devenir un homme sage, commence par acquérir la sagesse. Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence. Serre la sagesse contre toi. Elle te rendra grand et noble si tu l'enlaces. Elle sera pour toi comme une parure gracieuse, comme une couronne magnifique. » Ce qu'on voit ici, c'est que si la maîtrise de soi, c'est tout d'abord un privilège et une grâce que Dieu accorde lorsqu'il vient mettre son esprit en nous, lorsque par la foi on fait confiance que Jésus-Christ devient le Sauveur et le Seigneur, le Maître de nos vies, il nous scelle de son esprit, il nous appartient, on entre en union avec la personne de Jésus, on est réconcilié avec la personne de Dieu. À ce moment-là, c'est une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir maîtriser nos désirs qui parfois nous font la guerre. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que la maîtrise de soi est non seulement une grâce, c'est également quelque chose qui n'exclut pas de notre part un certain sens de l'initiative et de l'effort. On est-tu allergique au Québec à ce mot-là? Effort! Même dans la culture de l'Évangile, souvent on est allergique à ce mot-là, effort. Bien, je suis désolé, mais dans le Nouveau Testament, c'est rempli d'impératifs qui nous proposent de faire certaines choses de manière extrêmement impérative. Souvenez-vous, par exemple, sur le mont des Oliviers. Tout juste avant son arrestation et sa crucifixion, Jésus a demandé quelque chose à son Père céleste. Vous vous souvenez de ce qu'il lui a demandé? « Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Jésus ici demandait au Seigneur, s'il est possible que cette épreuve-là qui s'en vient puisse s'en aller, puis en même temps que ta volonté puisse s'accomplir, ça ferait bien mon affaire. Et le Seigneur lui a dit, non, mon plan, c'est que ta vie soit sacrifiée avec souffrance et douleur sur la croix pour la réconciliation de l'humanité avec moi-même. Et comment Jésus a combattu maintenant son désir qui était d'être éloigné de la croix, mais qui n'était pas conforme avec la volonté de Dieu? Comment Jésus a combattu son désir personnel de s'éloigner de la douleur et de la souffrance puis d'accomplir la volonté de Dieu? Comment est-ce qu'il a lutté, comment est-ce qu'il a maîtrisé ce désir-là? Eh bien, l'Évangile de Luc nous dit qu'un ange est venu le fortifier. Un ange est venu le fortifier et que, saisi d'angoisse, Jésus a prié alors avec plus de ferveur au point que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang qui tombaient par terre. On a ici vraiment un bel exemple de la maîtrise de soi à la fois comme une grâce et comme un effort, un moment de discipline. Dieu a envoyé un ange fortifier son fils. Mais Jésus a également lutté rudement pour maîtriser son désir. Le terme « angoisse » qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc signifie littéralement une lutte personnelle pour la victoire ou un effort physique soutenu. C'est de cette manière-là que Jésus a démontré la maîtrise d'un désir qui était en lui. En acceptant l'idée que son Père devait l'aider, en envoyant un ange, mais également, il s'est dit que je vais lutter aussi de manière physique pour que cette aide que Dieu m'envoie puisse être favorable et qu'elle fasse son effet dans ce que Dieu désire vraiment. La grâce de Dieu et la discipline personnelle ne sont pas des facteurs incompatibles. Ce sont des facteurs qui s'additionnent. Bien sûr, par mes efforts, je ne peux pas atteindre Dieu. Ça, c'est déjà fait. Dieu est déjà venu vers moi pour m'atteindre, pour me venir me rejoindre là où j'étais, c'est-à-dire dans la perdition. Mais une fois que j'accepte le merveilleux message de l'Évangile, une fois que la croix a fait de moi quelqu'un de nouveau, une fois que la croix et la résurrection de Jésus ont réglé le problème du péché, de la culpabilité dans ma vie, eh bien, à ce moment-là, Dieu s'attend à quelque chose de moi. Il s'attend que ma vie corresponde à ce qu'il a fait de moi. Et qu'est-ce qu'il a fait de moi? Il a fait de moi quelqu'un qui est saint. Il a fait quelqu'un de moi qui est saint. Et que si je marche dans la sainteté, si je marche dans la maîtrise de soi, si je cultive assez d'efforts dans ma vie pour me dire, « Seigneur, je comprends que dans la vie, tu as tout fait pour me rendre acceptable à tes yeux. Ça, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend juste de toi, de ce que Christ a accompli à la croix. Mais en même temps, aujourd'hui, je veux te plaire. Je veux te plaire en maîtrisant des élans dans mon cœur qui parfois sont incontrôlables pour moi. Puis je m'attends que tu fasses la différence, mais en même temps, je sais que ce n'est pas un coup de baguette magique qui va faire la différence. J'ai à acquérir une certaine forme de discipline. Que ce soit dans ma vie de prière, que ce soit dans ma lecture de la parole, dans mon temps, dans les petits groupes ou dans l'Église, j'ai besoin de ces facteurs-là pour constamment me remémorer ce que l'Évangile de Jésus-Christ a fait pour chaque être humain, ou plutôt désire faire pour chaque être humain, c'est-à-dire pas des gens qui courent après la maîtrise de soi comme étant quelque chose d'atteignable. Le but, là, ici, c'est pas, la sagesse, c'est pas d'atteindre seulement la maîtrise de soi, c'est pas de poursuivre la maîtrise de soi. La sainteté ou la maîtrise de soi, c'est de poursuivre quelqu'un. Quelqu'un qui est déjà maître de lui-même puis qui peut me donner cette maîtrise-là. Et cette personne-là, c'est Christ. C'est ça le but de la maîtrise de soi. Poursuivre Christ, être comme lui, en étant en lui et en cherchant mon plaisir, en améliorant constamment la qualité de ma relation avec lui. Pour bien des gens, la discipline puis la maîtrise de soi, ça veut dire être capable d'avoir une routine qu'on respecte. D'avoir une routine qui nous permet d'avoir le contrôle sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on pense. Pour d'autres, être discipliné, c'est renoncer ou se priver de certaines choses. Pour Bouddha, par exemple, on parvient à la maîtrise de soi en se détachant de ce qui existe autour de nous par un effort à la fois intérieur et extérieur, par une certaine discipline physique intérieure, j'arrive à me détacher de tout ce qui existe dans l'univers. Comme ça, j'ai plus de désir. Je les sublime. Et en n'ayant plus de désir, ben, d'une certaine manière, je parviens à mieux maîtriser qui je suis. C'est une manière de voir les choses. C'est une manière de voir les choses que je respecte, même si elle est dans l'erreur. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin que ça ce matin. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, qui en passant était pas mal loin d'être un chrétien, a déjà dit ceci. Il est plus facile de renoncer à une passion que de la maîtriser. Il est plus facile de renoncer à une passion que de la maîtriser. Donc, d'une certaine manière, ce que Bouddha nous propose, c'est la voie de la facilité. Renonce à ta passion au lieu d'essayer de la maîtriser. L'Évangile et le livre des Proverbes nous invitent non pas à renoncer à nos passions, mais à ce que notre passion soit centrée là où ça compte vraiment. Se maîtriser ou maîtriser notre propre personne, ce n'est pas une question de routine ou même de détachement. Je dirais que même ce que la Bible nous dit, c'est que la maîtrise de soi, ce n'est pas se détacher de ce qui existe autour de nous, mais de nous attacher au Créateur qui a créé tout ce qui est autour de nous et qui nous permet d'en jouir. Parce que si je me prive de chaque instant de grâce et de beauté qui existe dans ce monde, si je renonce à tout ça, je ne maîtrise rien, je fais juste y renoncer. Il n'y a aucune part où moi je suis impliqué et je me prive d'une grâce de Dieu où Dieu a créé cet élément-là dans ma vie. Et moi, au lieu d'apprendre à le maîtriser, et de le faire pour la gloire de Dieu, eh bien, je décide d'y renoncer. C'est un peu ça que dit Bouddha. L'Évangile va complètement dans le sens contraire. Attache-toi au Créateur qui a créé toutes ces choses qui sont autour de toi, à Attache-toi à lui. Non pas à ce qu'il a créé, mais attache-toi à lui. Et sers-toi de ce qu'il a créé afin d'être celui que Jésus-Christ a fait de toi à la croix. C'est-à-dire quelqu'un qui est gracié, quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu et qui est maintenant apte à vivre de manière à ce que tous nos désirs puissent être contrôlés pour nous guider vers la sagesse. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis un mordu de vélo. J'ai vraiment du plaisir, moi, à prendre ma bécane le matin, là, puis à rouler à fond de train sur le bord du fleuve, dans les boisées, dans les rues. Souvent, j'en croise plusieurs d'entre vous, là. Et si je ne vous salue pas, là, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est parce que je suis dans ma bulle, comprenez-vous. Et ce que ça me permet de faire, le vélo, là, ça me permet de me tenir en forme, ça me permet de faire du ménage dans mes pensées, ça me permet d'écouter la nature, d'écouter de la musique, même de prier. Il faut que je fasse attention pour fermer les yeux, là. Mais si je renonce à ce que ce vélo me donne pour soi-disant être libre de ce que le monde a à m'offrir puis de prouver que je n'ai pas besoin de ça pour être heureux, voulez-vous savoir ce qui va arriver? Ben, je vais prendre 60 livres. C'est ça qui va arriver. Je vais me priver d'un élément qui me permet d'être en santé, qui me permet d'être efficace dans mon travail, qui va me permettre même d'être ambitieux dans le quartier où je suis, d'être ambitieux en tant que disciple de Jésus. Ce vélo-là me permet de connecter ça à l'élément créateur qui m'a mis dans un monde où il y a des choses qui existent et qui me permet d'être équilibré dans ce que je fais. La privation n'est pas un synonyme de la maîtrise de soi. Mais c'est plutôt le contraire qui est vrai. C'est l'utilisation appropriée d'une grâce de Dieu qui est le signe d'une maîtrise de soi qui est inspirée par l'Esprit de Dieu. Vous voulez apprendre à mieux maîtriser qui vous êtes? Maîtriser des désirs, des pulsions, des besoins qui sont en vous. Premièrement, avouez que cette maîtrise-là dont vous avez besoin est un don de Dieu. Et deuxièmement, soyez prêts à faire le travail nécessaire pour ressembler à ce que Jésus a fait de vous à la croix. Dieu, dans nos vies, fait l'impossible. Mais ce qui est possible de faire, il ne fera pas à notre place. Souvent, on a l'impression que la maîtrise de soi, ça pourrait être qualifié même d'une vie qui est plate, d'une vie d'ascète, d'une vie de moine. Le monde autour de nous dit « Ah, c'est-tu plate maîtriser la portion d'alcool que je dois gérer? C'est-tu plate de manger juste des repas équilibrés? C'est-tu plate de surveiller le nombre d'heures que je dois passer devant la télé? Ah, il me semble que je me laisserais aller, là, et ah, enfin, je serais comme heureux de faire tout ce que mon cœur a envie de faire. » L'histoire de l'humanité nous prouve que quand un être humain fait ce qu'il a envie de faire, ça ne fonctionne pas. C'est le drame, c'est l'horreur, c'est l'atrocité, c'est des cassures partout parce que notre cœur est troublé et on vit dans un monde qui est troublé. Mais Dieu a une grande promesse pour nous. Il nous dit, si tu acceptes le fait que moi je peux te donner la maîtrise de tes désirs qui parfois peuvent te guider sur une pente glissante, si tu es prête à mettre l'effort nécessaire pour te discipliner en fonction de ce que je te dis, si tu es prête à obéir. Hein, souvent, le terme obéir, on dirait que souvent on associe ça au légalisme. Hein, obéir, c'est la loi. C'est mauvais, c'est pas l'Évangile. Hein, je suis désolé, c'est complètement faux, ça. Obéir, c'est pas la loi. C'est pas la loi dans le sens légaliste du terme où parce que mon obéissance, je vais me rapprocher de Dieu, puis enfin, il va faire quelqu'un de moi de bien. Ça marche pas comme ça. Obéir, c'est pas être légaliste. Obéir, c'est être saint. Obéir, c'est faire ce que Jésus-Christ a fait de moi à la croix. Quelqu'un qui est capable de marcher en ligne droite, d'écouter ce qui vaut la peine d'être entendu, et de prendre sa parole et de la chérir dans mon cœur. Lorsque Dieu nous invite à cela, il nous dit ceci, et c'est là mon troisième point. En nous apprenant la maîtrise de soi, Dieu tient en réserve pour nous une vie qui est haute en couleur, à la fois pour lui-même, pour nous et pour les autres. Tournez avec moi dans Proverbes, chapitre 23. Proverbes, chapitre 23. Au verset 15. Le texte nous dit ceci, chapitre 23, au verset 15. « Mon fils, si ton cœur s'attache à la sagesse, j'en aurai une grande joie. Je serai profondément heureux si tu parles avec droiture. N'envie pas intérieurement les pécheurs, mais sois constamment soumis au Seigneur, alors tu auras un avenir. Ton espérance ne sera pas déçue. » Verset 23. « Apprends à être véridique, sage, discipliné et intelligent, et ne gaspille pas ses qualités. Le plus grand bonheur des pères est d'avoir donné la vie à un homme juste et sage. Donne cette joie à ton père et à ta mère, ce bonheur à celle qui t'a mis au monde. » Ce qu'on voit ici, c'est que Dieu promet à celui qui recherche la sainteté, à celui qui recherche la maîtrise de soi, à celui qui recherche la sagesse, Dieu dit, écoute, tu veux être sage? Voici le portrait que je te dresse. C'est un portrait de bonheur incomparable. Suis ce que je te dis. Je connais la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire me dit que tu ne veux pas manquer ça. C'est trop beau pour être vrai, mais en même temps, c'est vrai. Ici, dans le texte, on voit comme un père qui parle à son fils, mais on pourrait certainement dire que c'est Dieu qui parle à chacun d'entre nous et qui nous dit, attache-toi à ce que je te dis. Moi, je suis en train de construire une vie complètement formidable pour toi. Laisse-toi guider par ce bonheur-là. Tu ne veux pas manquer ça. Moi, je vais en avoir du bien. Toi, tu vas en avoir du bien. Puis les gens autour de toi vont également être bénis par ta sagesse, par ta maîtrise de soi. Dieu accorde la maîtrise à celui qui vient vers lui, non pas à celui qui se prive de quelque chose. Ce qui est important au niveau de la maîtrise de soi, souvenir, c'est que ce qui est important, ce n'est pas tant la situation où on est en ce moment. Ce qui est important, c'est est-ce que je suis en train de progresser? Ce qui est important, c'est la destination finale. Est-ce que je suis en route vers ce chemin incomparable-là auquel Jésus-Christ m'invite, le Père m'invite et son Esprit m'invite, ou je suis en régression? Si je compare puis je trace une ligne du temps sur ma vie, là, où est-ce que je me situe? Est-ce qu'il y a du progrès dans ma vie au niveau de ma sagesse, au niveau de ma maîtrise, de ma patience, de ma colère, de mon amertume, des sentiments de vengeance qu'il peut avoir en moi? Si vous êtes marié, là, demandez à votre femme ou à votre mari, est-ce que tu trouves qu'il y a eu du progrès au cours des derniers mois, des dernières années? Et soyez prêts à recevoir la réponse franchement. Est-ce que tu as vu une amélioration ou une dégradation? Et si c'est une dégradation, la grâce de Dieu est là pour nous relever. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dieu t'invite encore à ce chemin incomparable, ce bonheur-là où est-ce qu'il veut imprimer sa sagesse et sa maîtrise de lui dans ta vie, afin de vivre complètement de l'Évangile. Non seulement être sauvé par grâce, mais vivre par la grâce que Dieu, de vivre comme si tu étais capable de progresser constamment dans ta vie en maîtrisant de mieux en mieux ce qui est en dedans de toi, tous les désirs, toutes les pulsions, ce que je ne suis pas arrivé à faire avec la fameuse Volkswagen. Il y a un verset magnifique dans l'Épître de Jacques qui nous dit ceci au chapitre 1. Jacques, chapitre 1, verset 17. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel. Est-ce que vous comprenez pourquoi maintenant on n'a pas à se priver nécessairement pour être mieux maîtrisé? Tout don vient du ciel. Mon vélo vient du ciel. Ça, c'est incroyable. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre par variation de position. Il est le même. Sa sagesse ne change pas. Son esprit ne change pas. Ce qu'a vécu Jésus, c'est accessible pour toi, c'est accessible pour moi, pour chacun d'entre nous. Verset 18. Il, en parlant du Père, a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ses créatures. Est-ce que ce n'est pas une vie haute en couleur, ça? Que nous puissions être au premier rang de toutes ces créatures et que ça puisse se manifester par une progression constante de notre maîtrise de soi, tout d'abord par l'Esprit de Dieu, également en cultivant cette discipline-là que la grâce de Dieu me permet d'avoir, mais également en voyant la lumière au bout du tunnel, même si je tombe, même si ma discipline n'est pas peut-être pas aussi sacoche que j'aimerais. Seigneur, de ça ne dépend pas mon salut, de ça ne dépend pas mon bonheur, de ça ne dépend pas ma sainteté. Ma sainteté est basée sur le fait qu'en toi, j'ai cette conviction qu'en toi, je vais vivre dans ce royaume absolument extraordinaire où ta sagesse va tout maîtriser. Aujourd'hui, c'est difficile à le concevoir, que la sagesse de Dieu maîtrise tout, parce qu'il y a la maladie, il y a la souffrance, il y a les catastrophes naturelles, il y a les épreuves, il y a toutes sortes de choses qui nous indiquent, pourraient nous indiquer que la sagesse de Dieu est où là-dedans? Attends, l'histoire de Dieu n'est pas finie. Un jour, ça va tout être maîtrisé, tout ça. Est-ce que tu veux faire partie de cette équipe-là? Est-ce que tu veux être intégré dans ce royaume-là à venir? Bien, le défi que je nous lance, c'est... Si c'est ça notre destinée, commençons tout de suite. Commençons tout de suite pour la destination finale que Dieu est en train de développer pour nous, où est-ce que tout va être maîtrisé? Bien maintenant, à travers la parole ici qu'on voit dans Jacques, qui est évidemment la parole qui a été incarnée à travers la personne de Jésus, on soit au premier rang de toutes ces créatures. Est-ce que tu as fait ce pas vers Jésus-Christ, afin qu'il te donne sa sagesse, son esprit, sa maîtrise de soi? Peut-être que tu te dis que tu es capable de faire ça sans Jésus-Christ. Je te dis tout de suite, là, c'est impossible. C'est impossible parce que Jésus-Christ est l'incarnation même de la maîtrise de soi. Donc, tu ne pourras pas accoter ce que Jésus a fait. C'est perdu d'avance. Peut-être que tu te contentes de quelque chose. Bon, ben, je suis capable de, peut-être d'être moins que Jésus, mais quand même maîtrisé. Ce n'est pas suffisant. C'est comme si tu te contentais d'une petite vie de misère, alors que Dieu a pour toi quelque chose de beaucoup plus extraordinaire et qu'il t'a donné son Fils pour vivre cette réalité-là de manière absolue. Est-ce qu'on veut, en tant qu'Église, grandir vers cette avenue-là? De dire à Dieu, dans ta sagesse, tu as permis que ton Fils maîtrise ses désirs. Des désirs qui l'éloignaient de la croix, mais que par sa discipline personnelle et par ta grâce, il est vécu à vaincre. Est-ce que tu t'identifies aujourd'hui à Jésus-Christ à travers cette épreuve-là? Peut-être qu'il y a des désirs dans ta vie que tu vois que tu as de la difficulté à contrôler, que tu as de la difficulté à gérer. Premièrement, de ça, ne définis pas ton identité en Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu as accepté qu'à la croix, tout a été réglé, que le poids de tes fautes a été pardonné, bien ça, c'est réglé. Tu es quelqu'un de nouveau. Et si tu n'es pas capable de maîtriser, ce n'est pas faute de pouvoir. Tu peux. Nous pouvons. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'on a une source de puissance infiniment supérieure à ce que toute notre humanité connaît. Est-ce que chacun d'entre nous, on veut ce matin prendre cet engagement-là de dire, « Seigneur Jésus, je veux que ta sagesse s'exprime dans ma vie par ma maîtrise de soi. » Que ce soit au volant, que ce soit devant un plat alléchant, que ce soit devant une série extraordinaire qu'on pourrait écouter pendant 8 heures de fil, que ce soit dans notre patience avec nos enfants, que ce soit avec notre employeur, où est-ce qu'on pourrait arriver à peut-être à faire une job et à couper les coins ronds. Comment est-ce que je peux, mais bien maîtriser les élans de mon cœur? Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Confie-toi en lui. Il va changer qui tu es. Il va mettre sa marque sur toi. On a vu que l'Esprit de Dieu, je vais terminer là-dessus, on a vu que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous donne la maîtrise de soi. Est-ce que cet esprit-là que Dieu t'a donné, ou qu'il veut te donner, qu'est-ce que tu fais avec cet esprit-là? Est-ce que tu le nourris? Est-ce que tu te soucies de l'Esprit Saint dans ta vie? Est-ce que tu lui demandes de faire quelque chose dans ta vie? Ou si pour toi, ben, c'est pas nécessaire que je lui parle, là, il sait bien, là. Non, je suis désolé, mais tu as besoin de ça. Tu as besoin de te soucier de ce que l'Esprit Saint veut faire dans ta vie. Chéris-le, nourris-le. Vois-le comme celui, le personnage de la Trinité qui peut te donner cette maîtrise de soi. On va se courber dans un moment de prière. Seigneur éternel, ce matin, on veut reconnaître que nous sommes des êtres qui, si souvent, manquons la cible envers toi. Si souvent, on n'arrive pas à être comblé de ce que tu désires nous combler. On ne voit pas ce que tu veux voir, Seigneur. On n'obéit pas à ce que tu veux que nous obéissions. On n'arrive pas à maîtriser ce que toi-même t'as maîtrisé pour chacun de nous. On ne te voit pas à la croix davantage comme celui qui peut nous apprendre à mieux maîtriser les élans de notre cœur. Notre prière ce matin, c'est tout d'abord te remercier de ce que notre identité en toi ne dépend pas du fait qu'on maîtrise les élans de notre cœur. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de nous accepter inconditionnellement au travers de la personne de Jésus. Merci pour ta résurrection. Merci pour ta mort à la croix où tu as porté chacune de nos fautes. Maintenant, une nouvelle vie commence. Une vie où tu désires faire vivre ton esprit en nous. Nous rendre toi-même le maître de nos vies afin que nous maîtrisions qui nous sommes. Tu nous permets cela, Seigneur Jésus. Tu nous donnes ce pouvoir, cette puissance, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui prend plaisir à mettre sa grâce sur nous, qui nous permet de vivre une vie de qualité près de toi, une vie, Seigneur, qui donne envie à tout notre quartier de vivre notre vie. Et si ce n'est pas le cas, Seigneur, apprends-nous, guide-nous vers ce chemin, afin que sans cesse nous progressions vers toi, en grâce et en vérité. Merci pour qui tu es, ce que tu as fait de nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ.